Nous allons donc nous préparer à recevoir sa parole. Je voudrais une fois de plus que chacun de nous se concentre sur la personne du Christ, afin que nos cœurs soient préparés à accueillir, à recevoir sa parole, cette parole qui est une véritable nourriture pour nos âmes, pour nos esprits, source de bénédiction pour notre vie. Et pour autant que nous la recevions avec foi, pour autant que nous puissions, eh bien, avoir une écoute, une bonne écoute par rapport à cette parole. Car c'est dans la mesure où cette parole est reçue, dans la mesure où elle finit par se cristalliser en nous, par devenir une réalité avec notre vie, c'est-à-dire dans la mesure où nous la mettons en pratique, alors seulement, cette parole deviendra une véritable bénédiction pour nous. Nous venons de passer des moments merveilleux devant ta face. Seigneur, nous venons d'avoir un face-à-face extraordinaire avec toi. Ceci nous a permis, ô Dieu, de nous exprimer devant toi, de t'exprimer nos sentiments, de faire monter vers toi, Seigneur, les paroles de nos bouches. Nous nous sommes attardés devant toi parce que cela est juste à tes yeux. Cela est une bénédiction pour nous, ô Dieu. Tu nous as sauvés de la perdition éternelle, tu nous as délivrés de l'emprise du monde et du diable, afin que nous puissions, Seigneur, servir à ta gloire, afin que nous puissions t'appartenir, afin que nous puissions assumer, Seigneur, notre première vocation, qui est donc celle de t'adorer, celle de communier de manière intime avec toi et sur au-delà du voile. Et ce moment que nous venons de passer nous ont permis, Seigneur, de pouvoir plonger nos regards en toi, de pouvoir laisser nos cœurs vibrer pour toi, Seigneur. Et merci pour cette capacité, ô Dieu, que nous avons par ton Saint-Esprit de pouvoir interagir avec toi, de pouvoir t'adorer, te louer, Seigneur. Merci pour tout. Le moment arrive maintenant où nous devons nous taire pour que toi tu parles. Seigneur, c'est un moment solennel que nous aimerions gérer avec beaucoup, beaucoup de respect, beaucoup de déférence, beaucoup de crainte et de tremblement, car tu restes et demeures celui qui a le dernier mot sur nos vies. Merci de parler à nos cœurs. Merci de oindre ton serviteur, de le fortifier et de lui donner l'intelligence de l'esprit dont il a besoin pour proclamer seulement tes oracles. Et merci également, Seigneur, de renouveler l'intelligence de ton peuple, ô Dieu, et de le rendre, de rendre ton peuple sensible à toi, perméable à ta pensée, car nous voulons être une communauté qui est façonnée par ta parole, une communauté qui est marquée par ta parole, une communauté qui marche, Seigneur, selon ta parole, et qui va contre-courant de toutes ces philosophies, Seigneur, ô Dieu, qui intoxique de plus en plus notre monde. Oui, aller à contre-courant de toutes ces théologies d'inspiration charnelle et satanique. Parle-nous, fais-nous du bien, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, veuillez vous rasseoir. Gloire au Seigneur. S'il y a quelque chose que nous devrions absolument bannir de notre vie, c'est la routine et la monotonie, c'est l'habitude. C'est-à-dire venir à l'église par habitude. Et avec l'habitude, on finit par oublier l'essentiel d'une rencontre comme celle-ci. Alléluia. Nous venons dans cette maison, qui est la maison du Seigneur dans ces lieux, pour rencontrer d'abord et avant tout notre Sauveur, pour avoir une interaction réelle avec lui, car il y va. Il y va, mes amis, non seulement de notre bien-être éternel, mais aussi de notre bien-être temporel. Car ce que nous sommes dans ce monde est déterminé par la position que nous occupons aux yeux de Dieu. En d'autres mots, nous sommes dans ce monde, c'est que Dieu dit que nous sommes. Alléluia. Donc, une réunion, une célébration comme celle-ci, mes amis, est une occasion de venir pour louer, pour adorer le Seigneur, pour lui exprimer nos sentiments d'une manière ou d'une autre, car il est notre Dieu. Le seul que nous avons au ciel, c'est le seul que nous avons dans tout l'univers, c'est le seul que nous avons sur cette terre qui puisse nous consoler, nous réconforter lorsque nous sommes affligés, lorsque nos cœurs sont agités, le seul qui puisse débarrasser nos corps tel ou tel autre virus ou bactérie, le seul qui puisse restaurer moralement et spirituellement notre vie. Alléluia. Et puisque nous n'avons que lui, alors faisons tout pour venir le rencontrer. Alléluia. Et avant même de venir dans ce lieu, nous préparer. Nous préparer à lui apporter notre louange, car cela est juste à ses yeux. Mais nous préparer également à recevoir sa parole. Alléluia. Sa parole, voilà tout ce dont nous avons besoin. Une église est bénie lorsqu'elle est bâtie sur le fondement que les apôtres ont posé depuis plus de 2000 ans. Et ce fondement est une personne, à savoir Jésus et Jésus seul. Une église grandit, croît, dans la mesure où elle est nourrie par la parole de Dieu, la parole du Christ. Elle croit, elle est conquérante dans la mesure où elle se laisse conduire par le Seigneur lui-même, dans la mesure où elle reste soumise à l'autorité de sa parole. Alléluia. Il n'y a que l'autorité de sa parole qui devrait s'imposer en matière d'éthique, en matière de théologie, en matière de toute référence herméneutique ou autre. Sa parole et sa parole seule. Alléluia. Et ce matin, je voudrais revenir sur quelques pensées qui ont fait l'objet de notre méditation il y a 2 semaines. Et comme je sais que vous avez une mémoire éléphantesque, eh bien, avant même que je vous dise, eh bien, de quoi il va être question, vous savez déjà. Nous allons parler de cette nécessité d'être transformé afin, mes amis, d'expérimenter le triomphe, la victoire que Jésus nous a acquise il y a plus de 2000 ans. Alléluia. Car l'Église, quelle que soit l'époque dans laquelle elle vit, quels que soient les membres qui la constituent, est appelée à être une Église conquérante. Une Église qui relève toutes sortes de défis qui se présentent devant elle. Une Église qui va de gloire en gloire. Alléluia. Mais une telle Église ne s'improvise pas. Voyez-vous, une telle Église est le résultat, le produit d'une vie marquée par l'engagement vis-à-vis du Seigneur. Une Église consacrée entièrement à lui, qui n'a d'autre mot dans son cœur que le nom de Jésus, dans sa bouche, que le nom de Jésus, dans son esprit, que le nom de Jésus. Alléluia. Comment être transformé en vue de triompher? Nous allons lire quelques versets, tirés ça et là, dans la parole de Dieu. Le premier passage que nous allons lire, nous l'avons déjà lu il y a 2 semaines, c'est donc 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. À partir de là, eh bien, nous allons décoller. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, nous lisons, « Nous tous, nous dit la parole, qui le visage dévoilé, reflétons ou contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, eh bien, résultat, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Alléluia. Et Hébreux 11, Hébreux 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire, doit avoir foi que Dieu est et qu'il devient le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc j'ai lu dans la version littérale. Et enfin, toujours dans Hébreux chapitre 12, les 2 premiers versets, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons à persévérance l'épreuve ou la course qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est donc l'initiateur de la foi et son accomplisseur, c'est-à-dire celui qui l'amène à la perfection. Amen. » Gloire au Seigneur. Un bref regard, un regard objectif et sincère sur les Saintes Écritures, le Nouveau Testament et en particulier sur le livre des Actes des Apôtres, suffit, mes amis, pour nous rendre compte combien Jésus était fidèle envers ceux de son temps, mais aussi combien il est resté fidèle envers la parole qu'il leur avait donnée. Avant de quitter cette terre, il leur avait dit, je cite, « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin de temps. » Il leur avait dit, « Ne partez pas tout de suite dans la mission qui est là devant vous, car il les avait missionnés, il leur avait donné un mandat, mais attendez l'accomplissement de la promesse du Père, car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Fort de toutes ces promesses, cette Église, mes amis, ayant expérimenté ces promesses, va donc, eh bien, marcher, va aller de l'avant, écrasant tout sur son passage. Nous voyons donc dans le Nouveau Testament que l'Église de Jésus est une Église conquérante, une Église qui écrase les œuvres du diable, qui fait reculer les ténèbres, au point où, mes amis, avec une poignée d'individus, dont la plupart n'avaient pas une grande éducation, ni une grande instruction, ils sont arrivés à bouleverser le monde de leur époque. Et nous les voyons à chaque étape de leur vie, vivant, expérimentant toutes sortes de grâces, toutes sortes de miracles. Et ce Jésus est encore le même aujourd'hui. Or, comment expliquer que beaucoup d'entre nous, avec le même Seigneur que eux ont servi, dans lequel ils ont cru, avec la même parole, comment expliquer que beaucoup d'entre nous ont des difficultés à vivre et à expérimenter le triomphe du Seigneur, et ce, au quotidien? Beaucoup d'entre nous, eh bien, sont vite écrasés par les épreuves. Il suffit qu'il y ait une petite tempête qui se lève, et puis les voilà les pieds en l'air. Il suffit qu'il y ait quelque chose, une petite tentation, les voilà qui culbutent et se retrouvent en train de nager dans toutes sortes de choses abominables. Comment expliquer, mes amis, cette différence entre les uns, ceux d'hier, ceux d'avant-hier et ceux d'aujourd'hui, alors qu'eux tous sont au service du même Seigneur, alors qu'eux tous, sont appelés à recevoir le même héritage? Eh bien, nous avons vu qu'il y a un obstacle majeur qui empêche beaucoup d'entre nous de s'épanouir véritablement en Christ, d'aller de l'avant, mes amis, de faire face à toutes sortes d'adversités, de faire face à la persécution, de faire face à la tribulation, quelle que soit sa nature. Un obstacle majeur que j'ai qualifié de véritable monstre, de véritable forteresse, que nous devrions faire abattre comme la muraille de Jéricho. Car tant que cette forteresse est là, mes amis, eh bien, nous aurons de la peine à aller de gloire en gloire, quand bien même nous aurions constamment le nom du Seigneur dans notre bouche. Car le nom de Jésus n'est pas un nom magique. On peut avoir ce nom-là pendant qu'on est en train de commettre le péché. Combien chantent en langue ou parlent en langue, tout en se laissant corrompre derrière le guichet du magasin dans lequel ils travaillent, et puis hop. Donc on peut faire toutes ces choses, hélas, tout en ayant le nom du Seigneur dans la bouche. Cela ne suffit pas, mes amis. Monstre que nous devons abattre absolument. Une forteresse que nous devons renverser à tout prix, que nous devons combattre corps et âme, car il y va de notre épanouissement, il y va, mes amis, du triomphe, de l'expérimentation, de la victoire à laquelle le Seigneur nous destine. Cet obstacle majeur ne se trouve pas en dehors de nous, il est parmi nous, et il est même contagieux, il est en nous. Cet obstacle n'est autre, mes amis, que l'absence de foi. Ce que nos Bibles, nos versions françaises, traduisent dans la plupart des cas par le terme incrédulité. La non-foi, l'absence de foi, malgré, mes amis, une connaissance religieuse de Jésus, malgré une adhésion intellectuelle aux dogmes, aux déclarations, à certaines vérités de la Bible, il se trouve que dans la plupart des cas, le cœur est pétri d'incrédulité. Le cœur nage dans l'incrédulité, dans ce que le grec appelle la pistia. Voyez-vous, le contraire de la foi, la non-foi. Voilà le terme que le Nouveau Testament utilise pour stigmatiser cette attitude de cœur qui est abominable et qui empêche beaucoup d'hommes et de femmes d'expérimenter la guérison, d'expérimenter la délivrance, la libération, de recevoir telle ou telle autre grâce après lesquelles ils aspirent. Dieu ne fait rien qu'en réponse à notre foi. Donc la foi reste fondamentale et essentielle. Nous ne pouvons pas être transformés à l'image du Seigneur si le Saint-Esprit ne trouve pas cet ingrédient vital en nous. Sans la foi, nous venons de le lire, et la Bible est très éloquente là-dessus, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. On peut venir, on peut faire des prières, sans que toutes ces prières ne soient pas mues par la foi. Ça peut être simplement des réactions, religieuses. Ça peut être simplement de la récitation. Vous voyez, à force de fréquenter une église comme la nôtre, où les gens sont libres de s'exprimer, on rencontre une forte expressivité, il est tout à fait normal qu'à un certain temps, à force d'entendre tout le temps « Alléluia, Alléluia », ou même à force de s'asseoir aux côtés d'un frère très ailé et qui à chaque fois lève ses mains, parle en langue, toujours la même chose, on peut se retrouver en train de répéter par mimétisme le parler en langue d'un autre. Voyez, sans savoir. Et même se satisfaire en disant, oh là là, je parle en langue. Ce n'est pas le but de parler en langue. Voyez, c'est pas ça. C'est une conséquence. Il y a des choses qui doivent se passer en amont pour que la glossolalie, c'est le terme technique, devienne une réalité en aval. Donc, ce manque de foi, cette absence de foi, eh bien, ou même la petite foi, qu'on va traduire, je reviendrai là-dessus, puisqu'on va faire une étude là-dessus, eh bien, tout cela sont des véritables obstacles qui se trouvent en nous. Donc, le premier combat, ce n'est pas tant de vouloir discerner le démon qui serait toujours là à chercher par tous les moyens à nous faire tomber, mais plutôt de regarder à soi-même, de regarder en son cœur. Car ce qui va déterminer, eh bien, ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alléluia. C'est l'intérieur qui détermine tout. Vous voyez? L'extérieur, vous pouvez afficher des apparences très, très spirituelles. Vous pouvez avoir une forme religieuse, très spirituelle, avoir des attitudes très spirituelles, même dans votre manière de marcher, dans votre manière de s'exprimer, vous donnez l'impression aux gens que vous, avec le Seigneur, c'est copain-copain. Chaque matin, c'est comme si vous partagez votre café avec le Seigneur. Il est là à votre table, vous lui serrez la main, ça va Seigneur, allez, on y va. Voyez ? Vous donnez l'impression d'être très spirituel. Vous déformez la voix, tout ce que vous voulez. Mais ça ne peut être que de l'hypocrisie. Vous savez ça? Alors qu'à l'intérieur, il n'y a que pourriture. Les pharisiens étaient des champions en ça. Et le Seigneur a stigmatisé cette hypocrisie en utilisant des termes très forts. Il leur a dit, vous êtes des sépulcres blanchis. C'est fort, hein? Vous êtes des tombeaux blanchis. Hein? Si vous allez à la nécropole, entre ciel et terre, ou dans n'importe quel cimetière, vous allez trouver ces belles pierres tombales. Vous voyez, en Europe, il y a des cimetières qui sont tellement célèbres qu'ils attirent des touristes. Si vous allez à Paris, le célèbre cimetière du Père Lachaise, où sont enterrés la plupart de ceux qui ont fait l'histoire littéraire, culturelle de la France, des artistes, des musiciens, eh bien, vous verrez que les gens, des touristes, vont aller voir la tombe des tels. C'est de véritables monuments architecturaux. Mais à l'intérieur, qu'y a-t-il? Hein? une beauté extérieure, mais à l'intérieur, il n'y a que pourriture. Voyez. Donc, mes amis, ne courez pas, ne cherchez pas à être reconnu comme l'homme ou la femme la plus spirituelle ou le plus spirituel. Ça ne sert à rien. Essayez d'être correct avec le Seigneur. Essayez d'être juste, d'être vous-même. Cherchez la reconnaissance de Dieu, pas celle des hommes. Car à vouloir être reconnu par les hommes, beaucoup ont recouru à des artifices, mes amis charnels, à des tromperies, parce qu'il faut qu'on me reconnaisse comme étant prophète, alors j'essaye de donner des fausses prophéties, de manipuler les gens. Mais si c'est, je suis prophète aux yeux de Dieu, si ça vient du cœur, je n'ai pas besoin que les hommes me reconnaissent. C'est lui qui va amener les hommes à me reconnaître, et non pas le contraire. Or aujourd'hui, eh bien, c'est nous qui cherchons à être reconnus, à nous mettre en évidence. Et résultat, eh bien, nous n'allons pas plus loin. L'incrédulité, l'absence de foi est une forteresse que nous devrions abattre. J'ai pris deux exemples pour montrer à chacun de nous combien, mes amis, le Seigneur se refuse d'agir lorsqu'il trouve des attitudes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est-à-dire lorsqu'il trouve une attitude d'incrédulité, de manque de foi. Nous sommes à Nazareth, c'est dans sa patrie. Il a grandi là-bas. Les gens le connaissaient comme étant le fils de Joseph et de Marie. Les gens connaissaient ses frères et sœurs. Voyez, le Seigneur a commencé son ministère, partout il passe, et bien il annonce le royaume de Dieu, il manifeste le règne de Dieu, il enseigne comme jamais homme n'a enseigné. Aucun scribe ne pouvait se mesurer à lui, sa parole était une parole vivante, alléluia. Les gens la buvaient, les gens la mangeaient. Ses miracles étaient de plus en plus grands. Sa renommée se répandait un peu partout. Non pas avec des panneaux publicitaires qu'on placardait un peu partout à Jérusalem. C'est moi Jésus de Nazareth, pas du tout. Ses propres miracles, son enseignement faisait sa publicité. Alléluia. Et voilà qu'il arrive dans sa région. Il veut partager cette grâce avec le Jean de Nazareth. Mais hélas, il va rencontrer une attitude répréhensible. Dans Matthieu 13, 53 à 58, pour ceux qui prennent le note, il arrive là-bas, il commence à enseigner. Et bien la Bible nous dit que le peuple de Nazareth est resté incrédule, fermé. À la base de cette incrédulité, des préjugés. Des a priori négatifs. Ça tue. Qui? Il est de quelle tribu? Ah! Depuis quand chez eux, il y a des pasteurs? Comme si il y a des tribus qui auraient le monopole de la parole. Oui ou non? Comme si il y a des ethnies qui, elles, sont destinées à être des pasteurs et d'autres à être toujours des suivistes. Des a priori négatifs, des préjugés abominables. Au lieu de se concentrer sur son enseignement, de voir en lui le Fils du Dieu vivant, évidemment incarné, non, ils ont laissé leur connaissance charnelle, temporelle, qu'ils avaient de Jésus, c'est-à-dire fils de Marie, ses frères et sœurs, nous les connaissons. Mais comment s'expliquer qu'il fait des miracles? Comment expliquer qu'il parle comme jamais homme n'a parlé? Comment expliquer qu'il enseigne avec autorité et non pas comme les scribes ou les docteurs de la loi? Comment? Eh bien, ils sont restés fermés. Et la parole de Dieu nous dit, à cause de leur incrédulité, le Seigneur ne fit pas là beaucoup de miracles, si ce n'est que guérir quelques malades. Vous voyez, cette contrée s'est privée de la manifestation de la gloire et de la présence de Dieu à cause de l'incrédulité. Et pourtant, ils connaissaient le nom de Jésus, oui ou non? Dans ce qu'ils disaient, il y avait la vérité. Mais ils se sont laissés arrêter par l'humanité du Christ, sans chercher à aller au-delà de son humanité et de voir sa divinité. De voir en lui, mes amis, le Fils de Dieu, venu sur cette terre pour sauver l'humanité. de la perdition et de la ruine éternelle. Absence de foi, il n'a rien fait. Ce monstre a maintenu le Jean de Nazareth sous son ombre, n'est-ce pas? Cette incrédulité a été une forteresse autour de Nazareth, de Jean de Nazareth, autour de cette contrée, et cela a empêché à ces gens-là, hélas, d'expérimenter la gloire de Jésus-Christ. L'autre exemple, ce sont les disciples qui avaient déjà eu à prêcher, à prier pour les malades, à chasser les démons. Mais cette fois-ci, un monsieur leur apporte son fils, qui était lunatique, qui avait des crises par moment. Et lorsque ça le prenait, et à la base de cette crise, il y avait donc un esprit démoniaque, cet esprit le jetait dans le feu, le jetait dans l'eau, pour l'achever. Vous voyez? Ils l'ont amené chez les apôtres. Les apôtres ont prié. Les apôtres se sont agités au nom de Jésus. Ils ont peut-être parlé en langue, on n'en sait rien. Hein. Évidemment, c'était avant la Pentecôte, évidemment. Eh bien, ils ont fait tous les tralala, rien ne s'est passé, jusqu'à ce que le Seigneur passe par là. Et c'est alors que ce monsieur s'adressera au Seigneur en lui disant, « Seigneur, si tu peux faire quelque chose pour mon fils, je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont rien su faire. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. » C'est là-dessus que le Seigneur se tournera vers ses disciples et va utiliser une expression très très dure, « race incrédule ». Des comptes, et pourtant, ils avaient invoqué le nom de Jésus, oui ou non. Mais derrière ce nom de Jésus, il y avait une petite foi. Car le Seigneur leur dira, ce genre de démon ne sort que par la prière, mais aussi par le jeûne. Mais, avant cela, il leur a dit, c'est à cause de votre petite foi. Mes amis, ça nous montre que nous pouvons prier sans qu'il y ait la foi derrière. Nous pouvons jeûner simplement parce que tout le monde jeûne. C'est la mode. C'est devenu presque une mode ici à Kinshasa. Il y en a même qui se targuent d'être des personnes qui jeûnent pendant 100 ou 200 jours. Vous voyez? Quel orgueil! Quel orgueil! Soyons humbles. Voyez? Que ce qui se passe avec le Seigneur en cachette reste entre nous. Quand nous nous tenons, c'est pour simplement laisser Jésus agir. Et non pas brandir nos Oscars spirituels en matière de jeûne. On vient avec ça. Je n'ai pas ça. Allez, voilà. Coucou, j'en ai reçu. Combien? Oh, je fais 15 jours de jeûne et prière. À sec, bon. 5 jours à sec. Les autres jours de l'eau et du pain sec. Oh, glorie, oh, mais je sors du jeûne, hein. On brandit. Mais vous avez déjà votre récompense. Oui ou non? Parce que vous avez reçu ça. Que vous brandissez pour étaler votre spiritualité, c'est une abomination. Voyez-vous? Et beaucoup sont rongés par cet orgueil, cette morgue insupportable. Voyez. Nous ne devons pas jeûner pour nous mettre en évidence, pour que tout le monde sache que nous avons, nous, cette capacité d'aller au-delà. Si nous le faisons, c'est simplement par grâce. Alors, puis si c'est par grâce, alors nous n'avons aucune raison de nous enorgueillir, ou alors d'en faire un piédestal sur lequel on monte pour que tout le monde nous regarde avec cette grosse médaille reçue au terme de 40 jours et de prières, comme le Seigneur dans le désert. À cause de votre petite foi. Mes amis, l'incrédulité est un obstacle majeur. Puisque l'incrédulité est un obstacle majeur, alors l'incrédulité devrait être notre premier adversaire. Nous devrions combattre, car tout se passe en nous. Voyez, quand on parle de l'incrédulité, on parle, mes amis, de la condition du cœur. Et comme nous l'avons vu, eh bien, le Saint-Esprit ne peut travailler que s'il trouve de la foi en nous. C'est la foi qui permet à Dieu de pouvoir interagir avec nous. Le Saint-Esprit ne peut rien s'il n'y a rien de foi dans chacun de nous. Et cette foi-là, mes amis, est intimement liée à la personne et à l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Seigneur qui génère cette foi. C'est le Seigneur, mes amis, qui la suscite en nous en réaction à sa parole. Alors, nous devrions faire très attention à ce que nous entendons. Dans une période où le temps, et c'est là qu'il devrait y avoir beaucoup d'ORL spirituelle. Vous connaissez ces spécialistes ORL, hein? Otorhinopharyngologue, là. Eh bien, qui s'occupe des oreilles, de là, et puis des oreilles de tout. Mais quand on a la démangeaison d'entendre régulièrement de fausses choses, ça finit, mes amis, par vous intoxiquer. C'est comme la nourriture. Vous pouvez avoir le même poisson, un bon tilapia, bien grillé, enfin bien préparé, alors qu'il est avarié, alors qu'il est resté exposé au soleil pendant un temps, vous vous laissez attirer simplement par sa forme, en disant, vous mangez ça. Eh bien, quelques heures après, vous passez tout le temps à la toilette. Qu'est-ce qui a changé? C'est le même tilapia qu'on peut trouver ailleurs. Mais seulement, ce tilapia était avarié, était envahi par des bactéries. Il en est de même, mes amis, de ce que nous mangeons spirituellement parlant. Ne vous laissez pas séduire par tous ces faux enseignements sur le combat spirituel, sur la prospérité matérielle. C'est de la nourriture avariée qui risque, mes amis, de vous détruire et de vous retrouver comme une éponge, comme une carcasse. Voyez, amaigri spirituellement parlant. C'est à peine que vous marchez, parce que vous avez mangé de choses que vous n'auriez pas dû. Nous devons faire très attention à ce que nous entendons. Si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, croyons que ce qui ne vient pas de la parole du Christ, quelle que soit sa forme, est donc de nature à détruire la foi. Faites attention à la nourriture, à ce qu'on vous donne dans l'assiette spirituelle. N'y allez pas simplement parce que vous sentez quelque chose. Dans ce domaine, les sentiments sont secondaires. C'est d'abord la raison. Je dois regarder si cela est conforme à l'enseignement des apôtres. Alléluia. Dans ce domaine, ne laissez pas l'émotion vous conduire. Vous risqueriez de vous retrouver en train de manger à la même table que des sorciers. Eh oui, il y a des sorciers qui utilisent le nom de Jésus pour attirer les gens. Et aujourd'hui, c'est un nom qui attire. Même dans certaines confréries mystiques, il y en a qui présentent Jésus comme étant le grand maître. Et tout ça, ça attire. Et les gens adhèrent à ces loges démoniaques, surtout les intellectuels, attirés par l'enseignement très, très philosophique, très métaphysique, bien structuré, et ils ne se posent même pas des questions, on les ment. Tel pharaon a été dans les loges. Tu étais là? J'ai beaucoup lu là-dessus. Ouais. Et souvent, ce qui est terrible, on ne dit pas que tel pygmée. C'est toujours les grands hommes. C'est pour attirer. C'est comme ceux qui croient dans la réincarnation. Dans le monde, j'avais un ami qui était un boxeur professionnel à l'époque, qui à un moment, je ne sais pas comment, il a atterri dans ces histoires-là. Un jour, on se retrouve quelque part, il commence à me raconter avec un autre ami. Lui, il dit, vous savez, dans ma vie antérieure, j'étais à la cour, je ne sais de quel roi de France. Il est né ici, hein, mais enfin. Et qui serait mort dans une bataille, toujours des batailles un peu célèbres. L'autre aurait évolué, je ne sais pas, dans quel royaume pharaonique. Voilà. Souvent, c'est toujours de choses grandioses. Je suis descendant. C'est faux. Il n'y a pas de réincarnation. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Si vous avez adhéré, mes amis, à ces insanités philosophiques ou croyances, il est grand temps de les vomir. Parce que ça maintient les gens dans le statu quo. S'ils sont impudiques, eh bien, ils restent. Ils disent, bon, de toute façon, je reviendrai, et puis, sous forme de chenille, mais on va te manger, c'est tout. Bref, ce qui ne vient pas de Dieu va détruire ou va susciter ce que je pourrais appeler l'antifoi, le contraire de la foi. Et lorsque cela est là, même si nous avons le nom de Jésus, nous pouvons nous lever pour recevoir quelque chose, confesser, au nom de Jésus, je prends possession. Au nom de Jésus, je prends. Avec un cœur rempli de ronces et d'épines, avec un cœur où vous avez toutes sortes de fourmis destructrices, et tu oses, au nom de Jésus, je prends possession. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais commence d'abord par combattre ton cœur qui partage la vie d'un homme qui est le mari de quelqu'un. Commence par combattre ce cœur-là. Au lieu de dire, je prends. Oh non, je prends. Je prends au nom de Jésus et tout ça. Et quelquefois, le diable se moque de nous. Il nous voit nous livrer à toutes sortes de danses. Lui, il est là. Il aime ça. Hein? Nous sommes distraits. C'est comme des gens drogués. Hein? Ils ne savent plus où aller, où les gens ivres. Hein? Ils ne savent plus. Les deux jambes ne communiquent plus. Hein? Ouais. La jambe gauche veut aller là, mais la jambe droite, elle veut aller de l'autre côté. Et puis, résultat, c'est. On se retrouve par terre. Donc, c'est la foi. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Comment voulez-vous que quelque chose naisse de Dieu en vous si les conditions ne sont pas requises et remplies? C'est ce que nous verrons quand nous parlerons du semeur qui sort pour semer la même parole, mais qui va avoir des résultats multiples. Voyez-vous, ce qui est né de Dieu, et voilà ce qui triomphe du monde, la foi. Donc la foi, la vraie, est le résultat d'une réaction du Saint-Esprit à notre parole, enfin à la parole reçue. Et là, la foi naît. Et lorsqu'elle naît, mes amis, elle peut alors faire bouger les grandes choses. Alléluia. Je vais prendre juste deux exemples très rapidement. De gens qui ont expérimenté quelque chose. Si les gens de Nazareth ont été privés de la grâce de Dieu, mais d'autres personnes vont en expérimenter. Il est question dans Marc 5, 25 à 34, question d'une femme qui a souffert pendant 12 ans de toutes sortes d'hémorragies, de ce que la Bible appelle une perte de sang. Elle a beaucoup souffert, cette femme. Elle a consulté beaucoup de médecins. Mais aucun médecin n'est arrivé à la guérir véritablement. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait sans que sa situation ne s'améliore. C'est peut-être ton cas ce matin, n'est-ce pas? Elle a tout fait, cette femme. Elle est allée voir tel généraliste, médecin généraliste, qui par après l'a recommandé à tel spécialiste, et puis tel autre spécialiste. Elle est passée entre les mains, nous dit la parole, de plusieurs médecins, sans en tirer un quelconque avantage. Elle a fini par dépenser tout ce qu'elle avait. Au contraire, son état, mes amis, continuait à empirer. Et puis la Bible nous dit, elle entend parler de Jésus. Elle entend des choses au sujet de Jésus. Alléluia. Tout commence par Jésus et avec Jésus. Elle a entendu des choses au sujet du Seigneur. Des choses concernant d'abord sa personne. Il dit qu'il est le Fils de Dieu. Il dit qu'il accorde le pardon. Mais aussi des choses que le Seigneur accomplissait, des miracles. Tout cela a fini par susciter la foi en elle, selon qu'il est dit, la parole, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du réma de Jésus. Alléluia. Vient de la parole exprimée du Christ. Et cette foi va l'amener à Jésus. Le Seigneur est en route pour aller guérir, ressusciter la fille de Jaïrus. Beaucoup de gens se pressent autour de lui. Donc, forcément, beaucoup de gens le touchent, oui ou non. Jusqu'à ce que cette femme arrive. Pendant qu'elle s'approche du Seigneur, eh bien, elle dit ceci. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Quelle foi! Si je puis seulement toucher, je n'ai même pas besoin de toucher son corps. Le simple contact avec ses vêtements suffirait. Elle y est arrivée. Elle a touché le Seigneur. Gloire au Seigneur.
Alléluia.
Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Alors que beaucoup de gens grouillent autour du Seigneur. Beaucoup de gens, eh bien, le pressent. On ne peut pas presser quelqu'un physiquement sans qu'on le touche, non? Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent expérimenter ceci, expérimenter cela. Mais à l'instant où cette femme touche le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, au même instant. Et j'aime beaucoup Marc. Il utilise beaucoup l'adverbe aussitôt. Si vous vous lancez dans une lecture, dans un voyage à travers l'évangile de Marc, vous allez être surpris de l'occurrence de cet adverbe aussitôt. Il est pratique, lui, Marc. Il ne se perd pas dans des considérations théologiques qui demanderaient beaucoup, un cerveau à 3 étages, pas du tout. Lui, Jésus arrive, il guérit, aussitôt la personne s'élève. Aussitôt, la perte de sang de cette femme s'arrête. Cette femme ressent en son corps qu'elle est guérie véritablement de son mal. Alléluia. Et ce qui est bien, c'est que le verset après, au même instant, pendant que l'une touche et guérit, au même instant, le Seigneur ressent lui aussi, en lui-même, qu'une force était sortie de lui. Et il se retourne, il regarde, il pose la question. Qui m'a touché? Les disciples sont perturbés, ils disent, mais enfin Seigneur, entre nous, vous voyez bien qu'il y a du monde, hein? Et j'essaie de voir Pierre, lui il était toujours le premier à parler. Jean, et l'okoninina. Qu'est-ce qui se passe encore? Hein? Maître, il y a beaucoup de gens autour de vous. Et vous posez la question, qui m'a? Eh bien, quand il dit cela, la femme est effrayée, la femme tremble, sachant ce qui venait de se passer. Car à l'instant où elle a touché les vêtements du Seigneur, elle a expérimenté quelque chose. Eh bien, elle va aller se jeter aux pieds du Seigneur et lui dire toute la vérité. Écoutez la réponse du Seigneur. Au verset 34, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Et sois guéri de ton mal. Regardez, avant de terminer, regardez, considérons cette scène. Il y a beaucoup de gens autour du Seigneur. Il y a beaucoup qui se frottent autour de ses vêtements. Mais il y en a une seule qui a eu une démarche de foi. Cette démarche de foi a eu pour conséquence que la force sorte du Seigneur et se répande dans son corps malade. Et sur le champ, la maladie est partie. Mes amis, on peut se frotter au Seigneur sans que ce frottement soit ait été provoqué par la foi. Dieu réagit en fonction de notre foi. Quand vous venez ici, venez avec cette foi de recevoir quelque chose. Ce qui a fait sortir la force du Seigneur, ce n'était pas tant le bruit. Tous ces gens qui étaient, Seigneur, je suis là, Seigneur, laisse-moi un peu, moi. Il y en a qui l'ont touché. Beaucoup l'ont touché, mais une seule a expérimenté la guérison. Gloire au Seigneur. La foi, voilà l'élément essentiel. C'est ce qui a permis à cette femme d'expérimenter la guérison et de repartir avec quelque chose. La foi suscite la véritable prière en nous. Et cette foi conduit la prière au-delà du voile. Oui ou non? Quand nous sommes au-delà du voile, comme la Bible nous dit, approchons-nous avec un cœur limpide, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Et quand nous arrivons avec cette prière, soutenue par la foi, au-delà du voile, nous présentons le besoin. Eh bien, la foi fait lever Dieu. Elle amène là où il y a notre besoin. Et là, quelque chose se passe. Ce qui a fait bouger le Seigneur, ce n'était pas cette foule qui le pressait de toutes parts. Mais ce qui a fait bouger le Seigneur, c'est la foi de cette femme. Devant Lazare, avant de terminer, avant que le Seigneur aille au cimetière, devant la tombe ou le tombeau de Lazare, eh bien, ses sœurs l'ont accueilli, en particulier Marthe. Et Marthe va faire une confession théologique extraordinaire. « Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir. » Il n'y a pas de confession plus christocentrique que celle-là. Hein? Oui ou non? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La question que je vous pose, théologiquement, est-ce que c'est la vérité? Jésus était Seigneur, le Christ, le Fils de Dieu. Si nous pouvions nous arrêter à cette simple déclaration de Marthe, nous aurions pu tirer des conclusions extraordinaires. Quelle femme de foi, Marthe. Cependant, quand ils arrivent au cimetière, devant le tombeau de Lazare, le Seigneur dit, demande à ceux qu'on ôte la pierre qui avait été placée devant le tombeau, la même femme qui, quelques instants, avait fait une confession de foi, avait même dit, Seigneur, je crois que tu es la résurrection, la même femme s'élève. Oh non, Seigneur! Non, Jésus, ce n'est plus possible! Il appelle Seigneur, hein? Mais s'il est Seigneur, il peut tout. Hein? Non, Seigneur! Il sent déjà, son corps est en corruption, parce que nous sommes au quatrième jour, avec la chaleur qu'il y a au Proche-Orient. Elle avait raison. C'est alors que le Seigneur lui dira, « Marthe, n'étais-je pas dit? Si tu crois, si tu as foi, tu verras la gloire, la foi du cœur. C'est elle qui nous fait voir la gloire de Dieu. Et c'est alors que le Seigneur se tient, on ôte la pierre, il lève les yeux et les mains vers le ciel. Écoutez la prière qu'il fait. Très simple. Il ne s'agit pas... Non. Pas du tout. Avec un calme royal. Une maîtrise de la situation extraordinaire. Père, Père, écoutez ce qu'il dit. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. En français, ce temps est un temps passé. C'est un passé composé. C'est pour exprimer une action... Regardez ce qu'il dit. Je te rends grâce de ce que tu m'as, car je sais que tu m'exauces toujours. Quand il dit que tu m'as exaucé, Lazare est encore au tombeau. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur, Lazare est déjà vivant. Je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Je ne sens rien, mais tu as posé ta main sur ma hanche et je me lève et je marche déjà. Et puis hop, gloire au Seigneur. Mes amis, voilà la foi. C'est la foi qui fait bouger Dieu. Après, il va s'adresser à Lazare, un mort. Lazare, sors. cette parole est créatrice. Lazare est dans le séjour des morts. Le Seigneur seul connaît la distance qu'il y a entre l'univers physique et le séjour des morts. Mais cette voix-là, c'est celle qui a retenti au jour de la création. C'est celle qui avait appelé à l'existence les choses qui n'existaient pas encore. C'est cette même voix, cette même parole efficace, puissante, créatrice, vivante, permanente, qui est allée chercher Lazare. Et les liens de la mort ne pouvaient plus le retenir. Et cette parole l'a ramené à la vie. Résultat, Lazare est sorti. Alléluia. Mes amis, pour terminer, nous avions dit, et nous l'avons lu, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il devient. Qu'est-ce qui fait que le Dieu qui est devient celui qui guérit la femme malade pendant 12 ans? Qu'est-ce qui fait que le Dieu qui est devient celui qui ressuscite Lazare? Il y a un élément vital qui rend tout cela possible, c'est la foi. Gloire au Seigneur. Et ça vaut la peine de l'acclamer. Alors venons pour nourrir notre cœur. Mais nous allons le voir. On peut recevoir cette parole sans qu'elle finisse par susciter la foi. Car il y a des conditions qui doivent être remplies. Donc l'obstacle, le monstre, c'est là et autour de nous. Si vous évoluez dans une église où les gens marchent par la foi, ils expérimentent des choses par la foi, vous allez être contaminé par la vraie foi. Mais si vous êtes là où l'incrédulité fait un travail de sape terrible, là où l'incrédulité sévit, vous allez être gagné par l'incrédulité. Vous allez avoir de la peine à croire. C'est pourquoi choisissez où aller manger, dans quel restaurant spirituel. Ne vous contentez pas simplement à dire, oh, ces belles assiettes. Là, dans cette, il faut voir les assiettes. C'est de la porcelaine de France. Ça ne vient pas d'importe où. Voyez? Oui, ça peut être de la pure porcelaine de France ou d'ailleurs, peu importe. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'on peut me servir dans une calebasse en argile. Mais si c'est la vraie nourriture, elle finira par... Car l'assiette, quelle qu'elle soit, si elle a de la nourriture avariée, eh bien, la nourriture restera. Et si j'ingère cette nourriture avariée, eh bien, j'aurai des problèmes. Bien qu'elle ait été servie dans une assiette de porcelaine pure, française ou chinoise. Il y a des bonnes choses aussi, non? Donc voilà, nous allons incliner nos têtes dans la prière. Je voudrais que chacun se tienne devant Dieu, que chacun s'examine, qu'il dise, Seigneur, j'ai besoin que tu augmentes ma foi. J'ai besoin que tu suscites cette foi. Cependant, dans mon cœur, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup d'obstacles. Ma vie n'est pas en règle. Ma vie est remplie de toutes sortes d'impuretés, de souillures. Ma vie, ma conscience me reproche mille et une choses. Et dans ces conditions, il est impossible que par ton esprit, tu puisses initier la foi, la générer, afin que cette foi m'amène à toi. Alors, demande pardon, Seigneur, si tu réalises que telle ou telle autre chose que tu fais, eh bien, est de nature à te mettre en porte-à-faux avec la volonté de Dieu. Demande pardon à Dieu maintenant. Et je prierai pour vous, afin que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons te remercier pour ta parole. Seigneur, ce que tu attends de nous, c'est que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Que nous puissions, Seigneur, marcher avec toi par la foi. Car tant que, ô Dieu, il n'y a pas de véritable foi en nous, ça sera difficile de pouvoir expérimenter ton règne, qui est un règne de puissance. Alors aide-nous, Seigneur, à travailler nos cœurs, à ne pas attrister ton esprit, car c'est ton esprit qui suscite la foi en nous. Et tant que ton esprit est attristé par des attitudes charnelles, par des cœurs remplis d'envie, de convoitise, de cupidité, il sera difficile que tu puisses susciter la foi. Alors, pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à nous débarrasser de toutes ces épines, de ces ronces qui détruisent notre vie. Bénis chacun de nous. Aide chacun de nous à languir après une vie de foi, à soupirer après une relation intime avec toi qui permettra à chacun de nous de pouvoir, oh Dieu, expérimenter la véritable foi. Bénis chacun de nous et merci pour tout. Après ce moment où nous venons de manger ta parole, nous voulons à notre tour te bénir en te donnant ce que nous avons préparé, en offrande, en dîme, afin que, Seigneur, l'expression de notre amour, de notre fidélité envers toi, puisse contribuer un temps, soit peu, à l'avancement de ton œuvre ici à la borne et au travers de la borne. Merci.